Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Plan de match. Salut Étienne.
Salut Dave.
Aujourd'hui, on rencontre le président de la Fédération des établissements d'enseignement privé.
Oh, ça, c'est un sujet chaud parce qu'on parle d'éducation partout dans l'actualité. Puis en plus, c'est la rentrée.
Ben oui, let's do it. Hey, salut David, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour participer à l'émission Plan de match. David, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, donc on apprécie vraiment ta disponibilité. J'imagine que tu avais d'autres choses à faire peut-être qu'un podcast. Je fais ça avec Étienne aujourd'hui, Étienne Dano.
Yes, ben content de te rencontrer. Avant qu'on commence le podcast, j'ai même découvert qu'on a plein de personnes en commun.
Yes,
ah ouais? Exactement.
Ouais, exactement. Je veux beaucoup d'étudiants, mais mon ami Patrick Tousignan, qui est directeur technique et technicien de son de ma tournée, puis qui fait beaucoup de spectacles d'humour. D'ailleurs, il y a une belle salle de spectacle dans le collège de David.
Oui, la salle Fenplast, beaucoup d'humoristes viennent roder leur spectacle, justement.
Ouais. Oui. Même un nouveau festival d'humour, même.
Exactement, à Longueuil, été. Okay. Oui, tout à fait.
Exactement.
Le monde est petit.
Oui, vraiment.
David, on se rencontre aujourd'hui. Tu es président de la Fédération des établissements d'enseignement privé.
Oui.
Ça fait presque 10 ans, là, c'est ce qu'on se disait au téléphone hier. Tu m'as appris aussi que c'était tu étais dans tes derniers pas, là, de qu'est-ce que je comprends.
Oui, exact. Je termine mon dernier mandat à la présidence de la FEP.
Tu es aussi directeur général du Collège Charlemagne depuis 19 ans. Là. Ça fait quand même un petit bout.
Exact.
Tu as eu plusieurs chapeaux aussi. Tu as été chargé de cours à l'Université de Sherbrooke.
Oui.
Scripteur d'épreuves ministérielles. Tu as été enseignant aussi. Puis tu as été conseiller municipal du district 7 pour la ville de Saint-Lambert.
Exact.
Oh, ça veut dire qu'on ne peut pas faire beaucoup de bruit.
Oui, il ne faut pas parler trop fort. S'il vous plaît, ça serait mieux.
Ça, c'est cliché de Saint-Lambert. Exact. Est-ce que tu as vécu cette époque-là?
Tout à fait. Ouais. Même que mon district était celui qui était directement à l'autre côté du parc Jean-Drapeau. Okay. Donc, j'ai vécu toute la saga avec le maire Coderre et le maire de Saint-Lambert à l'époque. Oui, tout à fait.
C'était les spectacles ou la F1 ou les deux?
C'était les spectacles. La F1, c'est un petit peu. Tout le monde était habitué. C'est un peu comme un droit acquis, mais il y avait. Okay. Redessiner la salle
au Cheaga,
puis les spectacles, puis tout ça. Okay. Il était orienté directement vers Saint-Lambert. Donc, il y a eu tout un débat pendant quelques années.
Ouais, fait que t'as eu à dealer ce fameux débat-là. Là, tout le Québec a entendu, même les gens qui ne savent même pas c'est où Saint-Lambert.
Oui, ben, au bye-bye, il y a une blague au bye-bye. Oui, tout à fait.
C'est vrai, au bye-bye, il en a parlé.
Exact.
Ouais, tu devais avoir hâte que ça se termine. Tout ça,
un petit peu.
Puis l'on te ramène dans tes anciennes émotions.
Oui, c'est ça, on te ramène là-dedans. C'était trop facile.
C'est bien correct, ça fait partie de la vie.
Donc, David, 10 ans comme président de la FEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé. Parle-moi donc des bons coups que tu as eus en tant que président. Il y a l'organisation, mais de quoi tu es fier?
Ben, je suis très fier de l'organisation en général et du réseau. C'est certain, comme président, en fait, je suis président du conseil d'administration.
Ouais.
Je suis aussi le porte-parole, mais c'est pas moi qui dirige l'organisme au quotidien. Il y a une permanence, une direction générale. D'ailleurs, Mme Nancy Brousseau qui vient de prendre sa retraite, qui a une très belle carrière. Puis Mme Vicky Vien qui vient d'arriver. On est très excités de l'avoir avec nous comme directrice générale. Ouais. Mais je dirais que bon, il y a eu beaucoup de bons coups. On a revu la gouvernance complètement de la FEP. Okay. Il fut une époque où il n'y avait pas de limite de mandat. Puis justement, je me dirige vers ma dernière année de mandat parce que maintenant, il y a des limites de mandat pour qu'on puisse remettre le flambeau, qu'il puisse y avoir un renouvellement. Puis c'est certain que toute la période de la pandémie, on a joué un rôle très, très actif auprès du réseau pour donner un bon coup de main au réseau pour que les gens puissent rapidement créer des écoles virtuelles presque du jour au lendemain. Et aussi, on a beaucoup transigé avec le ministère de l'Éducation. On a mis beaucoup de pression pour que les jeunes reviennent à l'école le plus rapidement possible. Puis qu'on puisse aussi offrir de l'enseignement virtuel parce qu'il y a un moment où il y a eu un flottement où c'était même pas clair qu'on avait le droit. On l'a fait quand même, mais bon, il y a eu une période où c'était pas clair. Puis je pense qu'à ce moment-là, la Fédération a fait un excellent travail de leadership dans le réseau scolaire québécois pour l'ensemble du réseau. Donc ça, j'en suis quand même très fier.
Tu me parlais hier aussi, puis je t'en ai pas parlé. Je trouvais ça super intéressant par rapport à la collaboration du secteur privé-public pendant la COVID.
Oui.
C'est quoi l'opportunité qui est arrivée?
Ben, on se parlait pas beaucoup avant, je dois dire.
Il y a eu ça de bon, mettons.
Oui, tout à fait. Il y avait une certaine méfiance, veux, veux pas. Ouais. Là, tu sais, on peut être vu comme des compétiteurs. Puis même entre les écoles, on est souvent en compétition entre les écoles. Ouais. Ouais. On collaborait déjà. La fédération existait, bien sûr. Mais je dirais que pendant la pandémie, les gens se sont parlé beaucoup plus. Même entre les écoles, il y a eu beaucoup de collaboration. Comme je disais tantôt, de créer des écoles virtuelles presque du jour au lendemain. Dans la semaine qui a suivi les fermetures, la majorité des écoles privées avaient déjà ouvert des écoles virtuelles, ce qui était pas le cas avant. Donc, il y a eu tout un travail de partage. Puis auprès des écoles publiques, ça a été beaucoup de... On a beaucoup collaboré au niveau de nos discussions avec le ministère. Puis on a eu des positions communes. On s'est parlé pour préparer. J'ai signé une lettre ouverte avec les présidents des fédérations de direction d'école du public. C'était du jamais vu. Donc, il y a une collaboration puis une ouverture qui n'existait pas du tout avant.
Est-ce que c'est gardé? Est-ce que vous avez conservé cette...
On a conservé un dialogue. Ouais, on a conservé un dialogue qui, pour nous, est très important puis qu'on aimerait même amplifier.
Okay.
Pour nous, les écoles privées jouent un rôle public important. On fait partie du réseau scolaire québécois au complet. Notre objectif, c'est de jouer un rôle de leadership, d'être des leaders en éducation, mais pour le bien de tous les jeunes Québécois. Puis en étant main dans la main avec le réseau public, on pense qu'ensemble, on peut faire un travail encore
plus fort. C'était justement une de mes questions, puis on en a parlé. Le rôle des écoles privées, si demain matin, on enlève le réseau des établissements d'enseignement privé, qu'est-ce qui se passe si on vous enlève?
On enlèverait le choix d'école à beaucoup de parents. Au Québec, il y a tout un débat autour du financement des écoles privées, mais le fait que les écoles privées soient financées fait en sorte qu'elles sont accessibles à beaucoup plus de personnes qu'en Ontario, par exemple.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui choisissent leur école à cause des programmes, à cause des profils, à cause du sentiment d'appartenance, qui n'auraient plus ce choix-là. Parce que, les écoles seraient plutôt imposées, comme c'est le cas au public. On se voit aussi comme des laboratoires d'innovation dans les écoles privées. On a la chance d'avoir beaucoup de flexibilité de gestion, de pouvoir tenter des projets, tenter des partenariats qui, par la suite, peuvent être partagés avec d'autres écoles, avec le réseau public. Puis on pense que ça permet au réseau scolaire québécois de s'améliorer dans son ensemble.
T'as-tu un exemple d'un projet qui a été initié dans le privé, qui a été copié-collé dans le public?
S'inspirer. Tous les programmes particuliers, il faut dire que ça a existé longtemps au public, mais les écoles privées ont créé une panoplie de programmes, des concentrations sportives, concentrations artistiques, robotiques. Il y a des écoles qui ont fait des concentrations de jeux vidéo, création de jeux vidéo. Tout ça a été initié au début dans des écoles privées. Et puis, on a vu des écoles publiques par la suite prendre la balle au bon puis en créer aussi dans leur réseau. Il y a eu un mouvement beaucoup vers les programmes particuliers. C'est aussi un débat. Moi, je crois personnellement que tous les jeunes au Québec devraient avoir accès à une option ou un programme particulier pour rejoindre leurs passions, leurs intérêts. Les écoles publiques ont beaucoup, beaucoup développé les grands programmes particuliers en réaction à ce qui se passait au privé. Donc, ça, je pense qu'on a joué quand même un rôle de leadership à ce niveau-là. Puis même au niveau des innovations pédagogiques, au niveau de la technopédagogie, les outils numériques, que chaque élève ait un outil numérique par élève. De plus en plus, on le voit au public aussi. Puis là aussi, on a joué un rôle de leadership.
Okay. Est-ce que l'inverse est déjà arrivé? C'est-à-dire quelque chose une innovation au public, puis le privé a fait
De part et d'autre, quand je parle des programmes particuliers, ça a été beaucoup initié dans les écoles privées, mais à un moment donné, les écoles publiques, il y a certaines commissions scolaires à l'époque, maintenant des centres de services scolaires, qui sont vraiment allés à fond là-dedans, puis qui ont créé des programmes particuliers, des excellents programmes particuliers partout dans leur région. Okay. Là, il y a des écoles privées qui se sont dit, attends un peu, là, moi, si je veux que les jeunes viennent chez nous, puis attirer les jeunes ou amener mes élèves vers la réussite au même niveau, il y en a beaucoup qui se sont créés aussi dans les écoles privées par la suite.
Okay.
Donc, puis les programmes sport-études viennent du public aussi. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup maintenant dans nos écoles privées. Donc, moi, je pense qu'un rôle d'émulation comme ça, puis de pouvoir être un laboratoire d'innovation, c'est juste bon pour tous les élèves du Québec.
Mais en parlant de programmes scolaires, de sport, ton collège, où est-ce que toi, t'es directeur, tout d'abord, il y a énormément de sport.
Tout à fait. J'ai la chance de diriger un très gros collège avec deux campus. Et puis, on a, nous, tous les élèves qui rentrent au collège dès secondaire 1. On a aussi une petite section primaire, mais en secondaire 1, tous les élèves se choisissent un programme et un profil. Donc, un programme dépendant de tes capacités académiques. Donc, on a un programme international pour les enrichir, si on veut. Mm-hmm. Programme régulier. On a un programme pour les jeunes qui ont des grandes difficultés scolaires ou pour la transition primaire-secondaire. Mais tous ces élèves-là, peu importe leur programme, se choisissent un profil en sport, en art ou en sciences. Mais dans notre campus de Ville-Sainte-Catherine, on a un énorme programme sportif. On a un des plus gros programmes de hockey scolaire au Canada. On a 27 équipes de hockey au collège. On est dans le football division 1. On a un sport-études parmi les premiers sports-études au Québec. On a plus de 1000 élèves athlètes au collège.
Donc, on parle du collège Charlemagne.
Le collège Charlemagne. Exactement. On est reconnu pour les sports en général, mais dans un campus en particulier là, à Sainte-Catherine, où les sports jouent un très gros rôle.
Le nombre d'équipes de hockey, c'est incroyable.
Les arts aussi.
Les arts aussi, tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui choisissent des concentrations artistiques. Nous, on appelle ça le profil art en théâtre, en danse, en création multimédia aussi. Puis, on a d'excellents artistes qui passent par le collège. Là. D'ailleurs, on a des comédiens, des humoristes. On est un peu une pépinière de sportifs et d'humoristes. Louis-José Houde est venu chez nous, entre autres. Puis d'autres connaissances chez vous, qui sont venus au collège. Donc oui, les arts jouent aussi un rôle très, très important au collège. Puis en éducation en général, je dirais.
On a le cliché qu'une école privée, tu es obligé d'être bon. Tu es obligé d'être, pour la de performer académiquement.
Okay. Ouais.
Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans certaines écoles privées, dont la tienne, pas obligé.
Pas obligé. En fait,
c'est
nous,
un
on veut que.
Extérieur, là, je dis pas que ça.
Nous, on dit que c'est un mythe. On sait qu'il y a quand même certaines écoles privées qui sont très sélectives. Je peux pas dire que ça existe pas. Mais chez nous,
c'est
tous
l'offre
les
et la demande, à un moment donné aussi.
Ben, c'est l'offre et la demande, mais chez nous, ça a toujours fait partie de la philosophie de la mission de l'école. On veut que tous les enfants d'une même famille puissent venir chez nous. Peu importe si tu es une jeune fille ou un garçon qui a des très, très bonnes notes et qui vise des programmes contingentés ou collégiales, mais si tu es un élève, un enfant qui a une dyslexie, un trouble de déficit d'attention, qui a besoin de bouger, qui est un petit sportif, qui a des 60-70 en travail à faire, bien, tu as ta place chez nous et on va t'amener vers ton plein potentiel aussi. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça a toujours fait partie de notre réputation. Puis près de la moitié de nos élèves ont des diagnostics de troubles d'apprentissage. Puisqu'on a cette grande ouverture-là et cette expertise-là, il y a beaucoup de familles qui nous choisissent à cause des services qu'on offre justement aux jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage.
Ah, génial.
Parce que tu me parlais aussi du fait que tu vas quitter la présidence. Puis la personne qui va te remplacer, tu voudrais quand même laisser un certain leg dans le sens. Tu me parlais de ça. Tu voulais que l'inclusion reste dans des valeurs fondamentales de la Fédération des établissements d'enseignement privé.
Tout à fait.
Parle-moi de ça un peu. Tu as ouvert la discussion là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à l'inclusion que tu voudrais qui continue, qui perdure ou qui s'améliore?
Bien, moi, je pense que le fait depuis... j'ai pas l'année exacte, mais je me souviens quand je suis arrivé au CA de la Fédération, on avait rencontré Marie Malavoie, qui était ministre de l'Éducation du gouvernement péquiste à l'époque, qui nous avait dit, écoutez, nous, on va continuer à vous subventionner, mais on veut que vous acceptiez davantage d'élèves qui ont des difficultés, on veut que vous fassiez davantage votre part.
Okay.
Je pense qu'on était à peu près 10 % du réseau à cette époque-là qui avait des diagnostics, qui avait des plans d'intervention. Puis là, on est à près de 20 % d'élèves.
Okay. Okay.
Puis ça, je pense que c'est très, très important. Si on veut être des leaders en éducation au Québec, dans le réseau des écoles privées, ça veut dire qu'il faut être des leaders auprès de toutes les clientèles d'élèves. Puis les élèves qui ont le plus besoin d'adultes et d'une éducation de qualité, c'est les élèves qui ont des difficultés scolaires.
Okay. Mmh.
Donc, pour moi, ce serait très important en ce moment. Il y a eu des époques où ça a été un peu plus difficile pendant des crises économiques, des baisses démographiques pour beaucoup d'écoles privées. En ce moment, dans les régions de Montréal et Québec, il y a quand même des listes d'attente importantes. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à la tentation de devenir très, très sélectif seulement sur la base de résultats scolaires. Il faut offrir des services de qualité à des jeunes qui ont des grandes difficultés scolaires, qui ont des diagnostics. Il y en a beaucoup au Québec. Il faut vraiment jouer notre rôle là-dedans. Un rôle de leadership, je dirais. Ça, c'est un leg que je voudrais laisser, puis je voudrais qu'il perdure au niveau du réseau des écoles privées.
Puis, je veux pas de nom, mais si ça te tente, tu peux m'en donner. Là, mais la personne qui va te remplacer, c'est quoi le profil idéal?
C'est un gars d'ARH qui veut savoir c'est quoi le profil idéal.
C'est qui?
Ben, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas, en fait, c'est le conseil d'administration qui va choisir parmi ses membres une personne pour devenir présidente ou président. C'est un rôle de gouvernance.
Ouais.
Il y a un rôle de porte-parole. Donc, je pense que ça prend quelqu'un quand même qui est prêt à aller débattre sur la place publique, qui est prêt à donner son opinion.
Bonne communication.
Puis pas toujours non plus être dans une cassette, je vous dirais, de répéter les mêmes choses, sortir des clichés. Puis vraiment jouer un rôle de leadership qui dépasse seulement les écoles privées. On s'est vraiment donné cette mission-là à la FEP de jouer un rôle de leadership en général dans le réseau scolaire. Donc, quelqu'un qui connaît bien le réseau scolaire, qui a une passion pour la réussite des jeunes en général, puis qui a une bonne communication.
Est-ce qu'il y a déjà un président ou présidente de ce conseil d'administration-là qui n'était pas directeur d'un établissement d'enseignement privé du réseau?
En fait, dans nos règlements généraux, on a des membres cooptés qui ne sont pas des directions générales, mais qui ne peuvent pas être président, vice-président. Pour être président, il faut être une direction générale d'un collège.
Mais une fois que tu as quitté ton mandat de président, tu peux rester sur le CA?
Oui, ben en fait, on s'est donné un plan
transition,
de match. Je devrais théoriquement déjà avoir terminé, mais à cause de la transition à la direction générale, je suis resté un mandat de plus de 2 ans. La première année, je reste président. Donc, jusqu'au mois de janvier.
Okay.
Puis par la suite, une nouvelle présidence va être nommée, puis je vais rester une année de plus pour aider à la transition. Je vais rester une année au conseil d'administration par la suite. En principe, c'est ça le plan de match, en tout cas.
OK, parfait.
Oui.
OK, génial.
Je voulais qu'on parle aussi, on a vu que tu étais impliqué dans l'utilisation, tu as eu des discussions par rapport à l'utilisation du cellulaire en classe.
Oui.
On avait des questions là-dessus, un peu où tu te positionnes, où que les écoles privées au Québec se positionnent là-dessus. Avez-vous un plan de match?
Ben, dans notre rôle à la FEP, il faut comprendre que ce n'est pas comme un centre de service scolaire. Les écoles ne relèvent pas de nous. Ouais. Donc, chaque école est autonome, ouais. peut avoir ses propres politiques, ouais. sa propre vision. C'est certains qui vont se tourner vers nous pour des conseils, puis des fois pour bon, un discours commun ou s'assurer qu'on est à la même page quand vient le temps, se positionner par rapport à certains enjeux. Donc, chaque école a un peu sa vision au niveau des cellulaires. Moi, je dois avouer que dans mon collège, je suis arrivé en 2006 dans l'équipe de direction. Les cellulaires commençaient, mais déjà, les gens n'avaient pas le droit de les amener en classe ou dans les corridors.
Donc là, chaque école a sa propre politique, oui. sa propre vision des choses.
Oui. Ben là, il y a une directive du ministre, par ouais, contre, qu'on se doit de ouais. respecter. Ouais. Mais effectivement, chaque école a son propre code de vie, sa propre philosophie parfois. Exemple, j'écoutais vous avez un invité récemment, un DG d'école privée où il n'y a ouais. pas d'uniforme, alors que la majorité ouais, des collèges privés en ont.
Frédéric Noirfallet.
Exact. Ah, ouais. Il y a des écoles qui n'obligeaient pas le vouvoiement alors que d'autres l'obligent. Donc ça ne vient pas d'une directive ouais. d'AFEP. Par rapport au cellulaire.
Le ministre, il n'a pas dit le vouvoiement aussi?
Quand il parlait, oui,
le vouvoiement,
oui, oui. Le vouvoiement fait partie ouais. du règlement qui a été ouais. adopté.
Même une politique de dénonciation ouais. qui avait été aussi.
Oui, oui. Il y a quand même des zones grises où on peut ouais, manœuvrer.
L'utilisation du cellulaire aussi. Fait que c'est pour ouais. ça que je voulais voir par rapport à cette nouvelle direction ouais. du ministre de l'Éducation. Ouais. Je comprends que la fédération n'a pas de pouvoir coercitif ou de. Mais. Vous positionnez où?
On s'est positionné positivement par okay. rapport au fait là, qu'on pense que les élèves ne devraient pas avoir un cellulaire en classe. Okay. Ce qu'on a dit au ministère, c'est qu'on veut quand même que le ministère donne le temps aux écoles qui ont des politiques différentes ah, oui. de pouvoir s'adapter. C'est certain qu'on aime beaucoup notre autonomie. Les écoles privées, ça fait partie de notre ADN. On pense que ça fait partie de notre grande force. Ça fait partie de ce qui nous a permis d'ouvrir des écoles virtuelles ouais, ouais. en une semaine ben, durant la pandémie. Ouais, ouais. La puis de revoir des fois notre offre de service rapidement quand nos élèves puis nos parents ont des besoins différents. C'est certain quand il y a une directive mur à mur, on aime moins ça quand ouais. ça vient du ministère. Ouais. Surtout que notre code de vie, une des grandes raisons que les gens nous choisissent comme école privée, souvent, c'est l'encadrement disciplinaire. Ouais. Ouais. Donc, quand on vient jouer dans notre code de vie, on est un peu chatouilleux, c'est certain. On aimerait mieux avoir notre autonomie puis pouvoir déterminer nos règlements. Ouais. On consulte nos parents, on consulte nos élèves. Donc, on aime moins les directives mur à mur comme celle-là. Mais sur le fond, on est d'accord qu'à un moment donné, avec tout ce qui existe comme cyberdépendance puis comme apprentissage que ouais. les jeunes doivent faire, que d'avoir le cellulaire en classe, c'est pas une bonne idée.
Bien, il y a un problème qui est quand même grave pour les étudiants et les adultes, c'est l'attention, le niveau d'attention.
Oui, exactement.
La durée d'attention, oh, oui. puis le cellulaire est une chose parmi tant d'autres, mais je oui. pense que d'adresser le problème, c'est l'attention. Là,
tout à fait.
C'est un problème d'attention.
Ben, l'attention, puis d'apprendre de différentes façons. Ouais. C'est certain que les jeunes, comme les adultes aujourd'hui, là, on a tendance à sortir notre cellulaire rapidement, le moindrement ouais. qu'on a un moment de...
Parce que si on parle, plate, on en parlait là, tantôt de que ce soit justement coercitif ou de dire ben, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone, mais politique d'attention en général, ouais. tu sais qu'il faut focusser là-dessus.
Ouais. Mais ouais. on peut pas nier que ça existe.
On peut pas nier que ça
quand
existe.
Quand ils vont sortir du secondaire, ils vont en avoir un cellulaire.
Exactement.
Mais puis, comment les bien éduquer?
C'est ça que nous, ça fait partie beaucoup de notre position. On est allé, on a déposé un mémoire, on est allé aux consultations là, au niveau de cette politique-là ouais. au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Bien. Puis pour nous, c'était très, très important qu'on ne doit pas décider du jour au lendemain ou même qu'on ne doit pas du tout décider d'éliminer tout le numérique des écoles. Il y a certains politiciens, là, quand le débat avait lieu, qui disaient on devrait sortir tous les écrans, les jeunes sont dépendants aux écrans, sortez-moi ça des écoles. C'est pas une bonne idée. Ces élèves-là vont sortir dans un milieu du travail qui est en compétition avec partout dans le monde où on utilise les écrans. Ouais. On utilise l'intelligence artificielle, on utilise les réseaux sociaux.
Ils vont être vieux jeux comme Dave et moi, puis ils vont avoir des tablettes avec des papiers. Puis des
oui, tantôt, j'écrivais avec mon crayon de bois, puis ils me jugeaient.
Non, justement, t'as un crayon à mime.
Tu traînes ton aiguisoir.
Ben oui, mais il faut éduquer ces jeunes-là. Il faut absolument qu'ils apprennent à utiliser le numérique de façon intelligente, efficace, éthique. Ouais. Comprendre les biais aussi de l'intelligence artificielle ouais. et du numérique. Nous, au Collège Charlemagne, on a créé une compétence numérique qu'on intègre à l'enseignement des cours, est-ce qu'ils apprennent okay. à utiliser l'intelligence artificielle, ils apprennent à utiliser aussi les outils. On pense qu'ils savent comment tout utiliser ça de façon efficace. Ouais. Mais il y en a là-dedans qui ont des écrans devant eux tous les jours et qui n'ont jamais écrit un texte au complet sur Internet, jamais utilisé Excel, etc.
Il y a un principe aussi addictif d'un écran aussi. Oui. Donc, c'est vrai ce que tu dis que tout le monde va avoir ça éventuellement, mais j'ai l'impression... Pas de l'enlever, ben, c'est ce que tu valorises, là, peut-être d'enlever au moins les téléphones, mais d'enlever ça, tu vas enlever le risque d'addiction envers l'écran ou diminuer. Tu sais, à un moment donné, c'est comme du sucre. Tu donnes tout le temps un bol de sucre devant un enfant, à un moment donné, il va piger dedans.
Ben oui, puis chez nous.
C'est le, ouais.
Ben, chez nous, c'est l'iPad. Chaque élève a un iPad. Puis la première année d'implantation, on était tout heureux. On disait, OK, les jeunes ont un iPad. Ouais. Première heure du dîner, ou à peu près, où est-ce que les secondaires 1 étaient présents, on a eu un petit choc culturel parce que personne ne parlait dans la cafétéria. Voilà. Tout le monde était devant leur écran en train de faire autre chose. Parce que c'est plus sécurisant quand tu arrives dans une première journée d'école de se réfugier dans son iPad que de parler à quelqu'un. Ouais. Donc, on a éliminé complètement, même si c'est nous qui demandons aux élèves d'avoir un iPad à tous les jours en classe, ben, ils n'ont pas le droit de l'avoir à l'heure du dîner. Ouais. Ils n'ont plus le droit. Okay. Parce que justement, il y a le côté dépendance, cyberdépendance, puis il y a le côté aussi où le social ne se faisait pas. Ouais. Puis on le voit dans les cégeps. Hein. Je vais dans les cégeps, je collabore avec le collégial, puis j'ai une fille qui est au cégep, puis elle me dit, bon, pendant les pauses, il n'y a plus personne qui se parle. Tout le monde est devant son cellulaire, tout le monde devant son iPad. Okay. Donc, pour nous, c'est important dans nos écoles que nos jeunes puissent socialiser, participer aux activités parascolaires, aller se lancer un ballon dehors. Donc, effectivement, il faut toujours être à l'affût puis s'adapter rapidement pour pas créer plus de cyberdépendance qui existe.
En gros, c'est l'équilibre.
C'est l'équilibre.
Ouais, c'est
l'équilibre.
C'est pas drastique, on a rien, on est en mode... on sait que ça existe.
Encadrement,
on sait que
tu peux un adulte doit encadrer des enfants. Je pense que le rôle d'un adulte, oublions l'éducation, c'est d'encadrer les enfants. Puis, quand j'étais petit, je me faisais encadrer par des
Mais je pense que le problème, c'est que nous, on a grandi avec sans se faire encadrer. Fait qu'on n'a peut-être pas toujours les repères en tant qu'adulte.
C'est ça.
Comment bien référer.
Exact.
Que, mais le personnel, je vais parler juste pour ton collège, parce que tu peux peut-être pas parler pour les autres, mais qui est attitré à l'intelligence artificielle, mettons, ou aux nouvelles technologies. Cette personne-là, premièrement, il faut qu'elle soit bien éduquée, puis deuxièmement, il faut qu'elle se mette à jour souvent, sûrement.
Ben oui. Ouais. Ben, en fait, des enseignants qui vont vraiment avoir la compétence à enseigner, c'est certain qu'on les forme, puis on leur demande de se former aussi, d'être prêt à l'enseigner. Ouais. Mais on a offert de la formation à tous nos enseignants, puis des exemples, puis des experts qui viennent leur parler, qui comprennent c'est quoi ces outils-là, c'est quoi les limites des outils, les avantages, les désavantages, les biais aussi, que l'intelligence artificielle peut utilise des textes, une vaste quantité de textes, mais qui ont eux-mêmes parfois des biais. Si on recule sur 20-30 ans, ils s'écrivaient des choses qui sont plus ou moins acceptables aujourd'hui.
Il
faut être conscient que c'est d'où vient l'information. Donc, oui, on forme le personnel. Puis, on l'a entendu quand il y a eu le débat. Il y a des gens qui disaient « Ouais, mais c'est pas mon rôle, moi, de gérer le cellulaire en classe puis tout ça. » Mais l'école au Québec a le rôle, oui, d'instruire, de qualifier, mais aussi de socialiser. Puis ça a toujours fait partie du rôle de l'école. Puis pour socialiser, il faut socialiser à l'intérieur d'une société. On ne vit pas dans un aquarium. Il faut que ces jeunes-là puissent s'adapter à la société dans laquelle ils vont évoluer.
Je comprends. Là, tu as amené le sujet de l'IA.
Oui, l'intelligence artificielle. Subtilement, j'amène le point
pour moi,
de
c'est quelque chose qui est important de te discuter. Là, puis même dans mon métier propre, on l'utilise. Puis il y a des avantages énormes à ça, autant pour nous que pour nos clients. Nos résumés, nos rapports sont. Évidemment, on fait une vérification dans tout ça, on est plus productif. Ceci étant dit, les enfants utilisent ça de plus en plus jeune. Ma fille de 8 ans, mon fils a 8 ans. Ma fille de 10 ans parle avec ChatGPT. Je trouve ça drôle, mais à un moment donné, j'enlève l'iPad parce que ça part dans des discussions qui n'ont plus de sens. Est-ce que nos enfants vont vieillir trop vite? Parce que avoir trop d'informations, j'ai surpris ma fille à poser des questions très politiques. Là, pourquoi l'Ukraine? À un moment donné, tu fais de l'anxiété par rapport à un pays qui est beaucoup trop loin. Est-ce que nos enfants vont vieillir trop vite avec la technologie?
C'est difficile. On a toujours eu un peu cette inquiétude-là avec toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées. Au niveau de vieillir trop vite, c'est juste la télé. À un moment donné, le contenu de ce qu'il y avait à la télévision quand le câble est arrivé dans toutes les maisons, puis la variété de postes. Je me souviens quand j'étais enfant, les adultes étaient très inquiets de tout ça. Ensuite, l'Internet, Google, etc. T'sais, je veux dire, il y a eu vraiment une grande inquiétude.
Cette réflexion-là de vieillir trop vite.
Oui.
Ah oui?
Okay. Ah, je pense que avoir accès à du matériel puis des choses comme enfant qu'on n'avait pas accès avant. Ouais. Fait que cette inquiétude-là existait. Moi, je ne suis pas tant inquiet de vieillir trop vite que de pas être assez vieux et mature pour comprendre limites de ce qu'on fait là.
C'est d'avoir l'information sur un problème puis ton cerveau... de la difficulté à gérer ou à le comprendre.
Exactement.
C'est l'anxiété sans comprendre pourquoi.
Oui, sens critique pas assez développé pour.
Puis pour juger de ce que tu lis. Il y a des élèves, là, on le voit, qui utilisent l'intelligence artificielle pour bonifier leur texte, pour aller chercher l'information. Puis on voit que ça vient quand même d'eux. Puis il y en a d'autres qui te remettent le texte, puis on reconnaît ChatGPT. Maintenant, on commence à s'y habituer avec les paragraphes, le gros endroit.
Tu peux même me demander à ChatGPT, c'est-tu toi qui l'écris?
Oui, exact.
Tu peux écrire à ChatGPT, écris-moi un texte que ça paraît pas que tu l'as écrit.
Oui, exact, et... exact. Tu peux même lui demander d'écrire à un niveau d'un élève de secondaire 2, secondaire 3, avec quelques erreurs. Là. Donc, les jeunes sont intelligents, mais tu sais, il y a quand même des compétences qu'on veut qu'ils développent, qu'ils soient capables eux-mêmes de faire, puis de juger de ce que l'intelligence artificielle va produire. Ouais. Donc, c'est certain que ça amène une réflexion, un débat. Il y a certains cours comme en français, en anglais, etc., ou même tous les cours, on doit produire des textes. Le problème, je pense, est encore plus amplifié là, au collégial, à l'université, où la note est souvent basée sur des productions écrites d'envergure. Ouais. Donc, il y a toute une réflexion. Comment est-ce que tu évalues la compétence d'écriture? Est-ce que tu demandes aux élèves de le faire devant toi tout le temps? Est-ce que c'est correct d'utiliser l'intelligence artificielle à certains moments? Qui va être une réflexion, je pense, qui va évoluer. On n'a pas le choix.
Moi, j'ai le goût de mettre mon chapeau à RH puis te poser une question. Tu me parles de compétences. Est-ce que vous avez des réflexions sur... Est-ce que les compétences requises chez vos étudiants ont changé? Les compétences acquises lors du processus de primaire, secondaire, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils ont changé? Dans le sens, est-ce que vous dites, ben, tu sais, le côté manuel un peu moins, plus créatif, est-ce que vous avez une ligne directrice de compétences, tu sais, des soft skills ou peu importe, à arriver à la fin d'un programme ou c'est encore... parce que le marché de l'emploi, il arrive, là, à un moment donné. Puis, j'ai pas besoin de vous expliquer aux deux que c'est en train de changer. Même si on pense que l'avenir, c'est pour les programmeurs, c'est même plus ça. Là, l'intelligence artificielle programme pour les programmeurs. Ouais. Fait que, tu sais, ça change. Là. Est-ce que vous avez une ligne directrice là-dessus? Ou...
Ben, je dirais que ça a été un débat... ça a été longtemps un débat en
public
éducation.
Privé, en général,
Mais la réforme de l'éducation des années 90-2000...
Parce que les pays asiatiques, ils travaillent dans ce sens.
Oui, mais il y a souvent un débat entre les compétences transversales, l'exemple, le jugement critique, la communication, etc., versus les compétences de base, là, lire, écrire, etc. Puis c'est un balancier qui, au fur et à mesure des décennies, bouge d'un côté à l'autre. Quand il y a eu la grosse réforme dans les années 90-2000, on étant le ministère de l'Éducation, les penseurs d'éducation, instaurer beaucoup plus d'emphase et d'accent sur les compétences transversales, puis même qu'on allait les évaluer. Puis, c'était plus des connaissances. On se dirigeait, c'est plus des connaissances, on veut évaluer des compétences. Puis, il y a eu une résistance qui est venue de plusieurs endroits. Ben non, on a besoin de connaissances. Donc, je pense que la ligne, on a besoin des deux.
Ben oui.
On a besoin des deux.
Encore l'équilibre.
L'équilibre. Donc, les bulletins, les programmes sont basés sur... Ben, en fait, en ce moment, au Québec, les programmes sont basés sur des compétences.
Ouais.
Mais les notes sont souvent... L'évaluation est souvent faite sur des connaissances. Fait qu'il y a un peu une dichotomie qui, un jour, va falloir peut-être s'asseoir puis avoir une nouvelle commission parent ou autre puis remarier ces deux éléments-là pour mieux préparer les jeunes pour le milieu du travail. Parce qu'apprendre des connaissances par cœur aujourd'hui, ben je dirais que ça fait 20 ans que ça ne sert plus à grand-chose.
Avec les nouveaux
exactement,
outils. Écoute,
exactement.
On peut dire qu'on ne s'entend pas l'utiliser, mais tout est là.
Ben oui, puis il y a eu le débat quand la calculatrice est arrivée à un moment donné dans les écoles, les gens disaient non, pas de calculatrice, les gens ne pourront plus faire du calcul mental. Puis aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir des calculatrices en mathématiques. Donc, des outils comme l'intelligence artificielle... va falloir apprendre à bien les utiliser tout en développant nos compétences de communication puis de jugement.
Moi, je pense que l'intelligence artificielle peut laisser de la place et du temps au système d'éducation justement pour développer l'intelligence émotionnelle, même l'économie, comment
gérer. Tout à fait.
Parce qu'on mettait tellement d'emphase sur la mémoire. Ouais. C'est un peu ça que tu me parles quand tu parles de connaissances, c'est la mémoire, mémoriser des choses. Mais si on l'a, est-ce qu'on peut juste être un meilleur humain à l'école, justement avec l'intelligence émotionnelle? Parce que j'imagine que c'est une notion de temps aussi, des créneaux. À un moment donné, si tu commences à créer des nouveaux cours, ben t'en enlèves ailleurs. C'est peut-être une opportunité de travailler plus sur le « nous ».
Tout à fait. Puis il y a quand même une rigidité du système. On réussit, surtout dans les écoles privées, mais aussi de plus en plus au public, à jouer avec le nombre d'heures et de minutes d'enseignement par matière pour offrir des profils, des nouveaux programmes, etc., et innover. Ouais. Mais il y a quand même une rigidité, comme en français, secondaire 4, il faut que tu aies X nombre d'heures.
C'est ça.
Et puis, ce serait bien, à un moment donné, de s'asseoir pour réfléchir qu'est-ce qu'on enseigne dans le cours de français. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'il y ait peut-être un peu moins d'heures de français, mais qu'on développe la compétence de communication à travers d'autres types de cours, parfois. Ouais. L'éducation, c'est un milieu très conservateur. Quand on commence à changer des choses, la société réagit, les journalistes réagissent, tout le monde a son opinion.
Est-ce que tu vois peut-être des pays ou des villes que tu t'inspires qui sont un peu plus axés, justement?
Je suis allé en Finlande.
Tout le temps, la Scandinavie.
Je suis allé faire un tour en Finlande. Je suis allé à un programme d'échange pour direction d'école,
une
formation.
Est-ce que c'est vrai qu'ils sont si bons que ça?
Il y a des choses qui sont très impressionnantes. Exemple, ils ont moins d'heures d'école, moins de mois d'école, Les jeunes ont beaucoup plus de moments libres pour faire du sport, faire de l'activité, développer d'autres habiletés. Actif. Ils ont encore des cours là, de couture et de technologie avec le bois, travail du bois, etc., okay. que les jeunes adorent. Puis ils réussissent avec moins d'heures d'obtenir des résultats aux tests internationaux qui sont quand même très impressionnants. Par contre, des fois, on entend des légendes urbaines, genre, il n'y a plus de bulletins, il n'y a plus de notes, il n'y a plus d'enseignement. C'est pas le cas. Il y a quand même de l'enseignement traditionnel qui
quoi,
se fait.
Sur quoi qu'on se mesure en tant qu'État? Est-ce que c'est le PIB? Est-ce que,
non, il y, ben, y a des tests internationaux ouais. qui existent. Non, mais,
ouais. L'éducation, à un moment donné, apporte des avantages au niveau social, économique, ouais. ainsi de suite. Ouais. À un moment donné, le pays doit quand même se positionner. Ça ouais. existe, l'économie, ça... Ces pays-là, scandinaves, est-ce qu'ils performent quand même au niveau économique?
Au niveau économique, ils sont productifs. Puis moi, ce qui m'impressionne aussi, quand ils calculent le niveau, l'indice de bonheur là, des ouais, pays, ça, des ça États. D'ailleurs, aussi. Au Québec, on est très heureux. Ouais. On apprend ça une fois par année. Peut-être qu'on est plus heureux au Canada ou en Amérique du Nord ou presque.
Ouais.
D'ailleurs, on a un système d'éducation aussi qu'on dévalorise souvent, mais qui a quand même des très grandes forces
ben oui.
qui est même admiré. Nos résultats en mathématiques sont exceptionnels.
En
mathématiques, dans les tests internationaux, on.
Privé-public.
Le Québec en général. Là, oui, c'est les jeunes de 15 ans qui testent dans les tests internationaux, puis on performe très, très fort, okay, beaucoup plus fort que la France, les États-Unis, etc.
Génial.
Puis on est très proche des pays comme la Finlande, des pays scandinaves. Les pays asiatiques, c'est toujours eux quand ils font les tests internationaux qui sont 1, 2, 3, 4 ou à peu près. Par contre, quand on regarde les taux de suicide, les taux les indices de bonheur sont très bas.
Ouais.
Il y a beaucoup de suicides parmi les jeunes. Là-bas, il y a certains pays où il y a énormément de compétition pour aller à l'université. Puis si tu y vas pas, ta vie est finie. Puis la vie de tes parents est finie parce que tu as la responsabilité de t'en occuper.
Ouais.
Donc, c'est je pense qu'il faut faire attention. Ouais, le fait qu'on a un bon indice de bonheur au Québec, les taux de suicide ont diminué dans les 20-30 dernières années. L'économie va quand même bien pour une petite nation comme la nôtre. Il faut regarder les bons côtés.
Ouais.
Le côté plus sombre, c'est qu'on a un haut taux de décrochage, beaucoup plus élevé qu'ailleurs, en Occident. Puis ça, je pense que ça devrait être un accent... le focus devrait être là-dessus au niveau du gouvernement et de la société au Québec.
Ouais.
On a besoin de diplômés.
Ouais.
On a une économie du savoir. Puis on est en dénatalité aussi au Québec. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des 30% de garçons puis des 20% de jeunes
qui
lâchent l'école avant le secondaire. Ça devrait être le focus de nos efforts.
Ça, c'est la passe sur la palette. Pour
yes.
Log son livre.
Exact.
T'es dédicacé en plus.
Ouais, exact.
Donc, David, t'as écrit un livre.
Oui.
Parle-moi de ça, qui est ici.
Oui, ben ça a été un projet que j'ai adoré. C'est pendant la pandémie, j'ai pris un petit... j'ai été très occupé quand même pendant la pandémie avec l'école virtuelle, puis je jouais trois rôles à l'époque, là, comme DG du collège, président de la fédération, conseil municipal. Mais j'ai quand même eu certains moments où j'ai pu prendre un pas de recul. Puis j'arrivais à un moment de la carrière où j'approchais... je rentre dans ma 25e rentrée scolaire. Je pense que j'étais donc à 20 ans à ce moment-là.
Là, c'est ta 25e...
C'est ma 25e rentrée dans le milieu d'éducation.
Parce que tu as débuté enseignant.
Oui, j'ai débuté enseignant en 2001.
C'est certain, félicitations.
Ben merci. J'enseignais l'anglais langue seconde dans une école. Et il y avait un groupe d'anglais langue maternelle aussi dans cette école-là.
T'as l'air tout jeune encore, en passant.
Merci, c'est gentil. Ben, je suis rentré jeune comme direction d'école aussi. Mais c'est ça, j'avais comme un pas de recul. On vivait la pandémie à ce moment-là. Je voyais que les écoles allaient rester fermées longtemps. Je voyais ce qui se faisait ailleurs. À ce moment-là, je voyais qu'en Ontario, les écoles virtuelles étaient ouvertes au public. Aux États-Unis aussi, malgré qu'ils sont restés à la maison longtemps. Puis nous, je trouvais que ça avançait pas très vite. Puis j'ai pu prendre un pas de recul, analyser un peu les statistiques de taux de réussite de nos élèves. Je suis allé fouiller dans les tests PISA, justement, qui sont les tests de comparatifs internationaux, pour réfléchir à notre système d'éducation, puis l'éducation au Québec. Puis j'avais écrit une lettre ouverte, d'ailleurs, qui avait été publiée, Journal de Montréal, Journal de Québec, là, qu'on devrait se recentrer sur la persévérance scolaire au Québec, parce que c'est notre talon d'Achille, je crois.
Ouais.
Donc, ça m'a inspiré là, d'écrire un livre basé sur mes expériences à moi, ce que j'ai vécu comme prof, comme direction d'école, comme président de la fédération, ce que j'ai pu voir qui fonctionne. J'ai fait des recherches aussi au niveau des meilleures pratiques.
C'est ton initiative.
C'est mon initiative personnelle. Pas une commande du tout. J'ai écrit ça chez nous, dans mon sous-sol. J'ai envoyé ça à des maisons d'édition. Puis il y en a une qui a levé la main puis qui m'a donné
Château
un coup de main. Château d'Ancre, exactement. Une belle maison d'édition, d'ailleurs, qui publie des livres en éducation aussi, là, qui a une certaine passion pour l'éducation, ce qu'on ne voit pas beaucoup, toujours, au Québec. Donc, ça a été un très, très beau projet qui m'a permis de réfléchir un peu puis de pouvoir essayer de mettre la main à la pâte là, pour pouvoir proposer des solutions aussi pour notre système scolaire.
Un bel exemple de d'homme persévérant au Québec, c'est Steve Bégin.
Tout à fait.
Qui signe la postface.
Exactement.
De ton livre.
Exactement.
Tu peux nous parler de comment c'est arrivé?
Ben, moi, Steve Bégin m'inspire beaucoup. Je suis un grand fan de hockey, puis il y a beaucoup de hockey dans mon collège. Puis dans mon bureau, j'ai deux photos de joueurs de hockey, puis c'est Steve Bégin puis Martin Saint-Louis, avant même que Martin Saint-Louis devienne entraîneur-chef du Canadien. Puis c'est deux joueurs qui m'inspirent parce que c'est deux joueurs qui n'ont pas eu la vie facile. Mmh. Martin Saint-Louis a été coupé de toutes ses équipes partout où il est passé, puis il n'a jamais abandonné.
Il n'a pas été repêché,
puis il a été coupé là, tout le temps parce qu'il était trop petit. Puis il a dû toujours faire ses preuves. Là, jusqu'à Team Canada, même quand il était parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il coupait toujours, puis il abandonnait jamais. Steve Bégin vient d'un milieu très défavorisé, une enfance très difficile. Puis bon, on se souvient de lui comme joueur de hockey, pour ceux qui sont fans. C'est quelqu'un qui n'avait pas nécessairement le plus grand talent, mais qui était extrêmement persévérant.
Oui, extrêmement.
Puis un grinder, comme on dit.
Un grinder. Puis comme jeune, c'est quelqu'un qui avait des difficultés scolaires, une dyslexie non diagnostiquée. Il vivait dans une famille monoparentale où il y avait beaucoup d'enjeux. Puis l'école n'était pas nécessairement une grande priorité. Le hockey a pris beaucoup de place. Ça a été un peu sa porte de sortie.
Okay.
On a vu la carrière qu'il a eue, mais Steve Bégin, quand a terminé sa carrière, il a décidé de retourner à l'école pour terminer son secondaire parce qu'il n'avait pas terminé ses études secondaires. Donc, pour moi, c'est un exemple exceptionnel de persévérance. Il n'avait pas besoin de faire ça, on s'entend. Il venait de terminer une carrière dans la Ligue nationale de hockey.
C'est ça.
Puis, il a donc accepté, un enfant qui venait au collège, une discussion avec, puis a accepté d'écrire la postface là, pour encourager les jeunes à ne pas abandonner. Puis, les photos dans mon bureau, quand j'ai des jeunes qui ont un peu plus de difficultés puis qui veulent abandonner, ben, je leur conte l'histoire de ces deux joueurs-là. Puis, je leur dis, quand tu n'abandonnes pas, tu es capable de réaliser de grandes choses malgré les obstacles.
Génial. C'est fou, hein?
Ouais.
Puis Steve Bégin, on a parlé aussi tantôt de Guillaume Latendresse.
Oui.
Hein, on va rester dans le monde.
Alors, OK, mais ouais, mais...
Guillaume Latendresse, qui a déjà été aussi entraîneur de...
DG.
De...
Ben, il a été DG et entraîneur-chef de notre équipe Midget 3A. Chez nous, au collège, le sentiment d'appartenance est extrêmement important. Même nos valeurs, notre énoncé de valeurs mène au sentiment d'appartenance qu'on veut développer chez tous. Nos élèves, nos anciens, nos parents, nos retraités. Ouais. Les gens reviennent et se réinvestissent dans le collège. Guillaume Latendresse et son frère Olivier ont joué leur hockey chez nous. Ils ont fait leur 5 ans de secondaire chez nous, malgré que Guillaume a peut-être été repêché avant secondaire 5. Il faudrait que je retourne voir. Là, mais bon, ils ont fait leur secondaire chez nous. C'est des gars de Sainte-Catherine, où on a un de nos campus. Et puis, Guillaume, après sa carrière dans la Ligue nationale, est revenu comme entraîneur-chef. C'est éventuellement devenu DG de l'équipe. Puis là, bon, maintenant, il a toute son autre carrière. Mais son frère Olivier est maintenant l'entraîneur-chef. Il fait un podcast, effectivement. Non, pas encore.
Il parle de sport.
Exact. Mais Olivier est maintenant l'entraîneur-chef de notre équipe Midget 3A. Puis au collège, on a près de 300 employés. C'est un gros collège, là. Puis avec nos entraîneurs et tout,
ça 300 employés.
Oui, 300 employés. Puis 600.
Des fois, les gens sous-estiment.
Ah oui, oui. Puis avec les entraîneurs, les contractuels, c'est 600 personnes au total.
Avec les contractuels, wow.
Oui. Bien, il y a beaucoup d'entraîneurs avec nos équipes. Mais parmi les 600.
Tu rajoutes les élèves là-dedans.
Oui.
Tu rajoutes aussi les parents qui font partie de
l'équation. C'est une grosse communauté. Oh,
là, tu rajoutes les beaux-parents.
Les beaux-parents.
Oui, ben, les grands-parents. Il y a souvent quatre parents dans le décor.
Oui, c'est ça. Ça doit être ça.
Il y a du monde. Mais les gens, tu sais, sur les 600, on a plus de 100 personnes que c'est des anciens qui sont revenus. Beaucoup de nos enseignants sont des anciens du collège.
Ah,
fait
que, c'est beau, ça,
fait, Guillaume est un exemple de ça là, qui continue. Puis il était d'ailleurs, on fait un tournoi de golf annuel pour notre fondation pour mettre des bourses aux élèves. Steve Bégin était présent. Guillaume était présent aussi là, à notre tournoi de golf.
Moi, David, je veux profiter que tu es ici avec nous.
Oui.
Je veux que tu sois honnête. On a toutes nos tu sais, des fois, on est à Noël, puis on parle de l'éducation, puis tout le monde a la meilleure idée. Là,
oui.
On se dit, ben, moi, je ferais ça. David, mettons, je te dis, là, depuis que tu as commencé dans l'éducation, c'est quoi l'idée la plus folle que tu t'es dit, ça, si on faisait ça, tout fonctionnerait, mais je suis limité par le budget. Là.
Wow.
C'est quoi l'idée la plus folle que tu as eue? Moi, on en a toutes, là, tu sais, des idées. Là, de,
ben,
on
se
dit, pourquoi qu'on fait pas ça? Ça serait si simple. Hey, on a besoin de ça en tant que société.
Ben, je te dirais, tu sais, il y a des gens quand même, les gens qui ont fait le lab école. C'est le fun qu'on ait des gens qui rêvent, qui essaient des choses. Puis il y a des gouvernements qui ont accepté d'embarquer jusqu'à un certain point dans ces rêves-là.
Je comprends qu'on peut pas tout faire aussi.
Non, puis c'est ça, puis c'est drôle, là, parce qu'on est une école de projet aussi. On essaie beaucoup, beaucoup de choses. On instaure des nouveaux projets à chaque année. Mais c'est sûr que si on avait vraiment l'opportunité de s'asseoir, de mettre tout sur pause et de réfléchir au système d'éducation en général.
Ça va trop vite. Là,
ça va trop vite, mais même, tu sais, puis il y a des choses, des fois, notre économie est basée sur les 2 mois de vacances en été, là, mais tu sais, de revoir même le calendrier scolaire au complet, de revoir les heures d'école. Si les jeunes pouvaient tous faire du sport tout de suite en arrivant à l'école, puis là, il y a une question de plateau, mais là, si on me demande de rêver complètement,
ben,
là, tous les jeunes du Québec à la première période font du sport.
C'est bon, ça.
Font du sport, bougent.
C'est multisport, au pire.
Multisport, pas obligé d'être du sport de performance ou d'élite. Tu bouges.
Mais même idéalement, multisport, parce qu'un enfant qui est jeune, de développer toute sa motricité.
Tout à fait.
Puis si
tout
tu fais seulement, exemple, je joue hockey jeune, puis des fois, j'ai mal, je suis gardien de but, t'as mal à l'aine.
Ouais.
Si tu développes vraiment des compétences, mais OK.
Ben, c'est ça. Bon, première heure, tout le monde bouge, tout le monde va dehors, joue, puis libère ses hormones et puis est capable de bouger, faire du sport. pour commencer la journée scolaire tout de suite après, ce serait fantastique. Dans notre école primaire, on a instauré du sport à tous les jours parce qu'on est capable avec l'horaire, c'est une petite école primaire.
C'est déjà envie.
Mais de faire ça partout au Québec, ce serait fantastique. Je pense que nos taux de réussite augmenteraient de façon dramatique.
Ouais, ouais.
Si tout le monde, surtout au secondaire, avait accès à un programme de son choix basé sur une passion, que ce soit le dessin, le sport, la robotique ou peu importe, puis ça occupe quand même une bonne partie de la grille horaire, là. Ouais. On disait toujours, nous, nos programmes pour les élèves en grande difficulté au collège, on les revoit tous les 4-5 ans. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « ajoute du français, ajoute des maths, coupe le reste ». Puis j'avais fait venir un chercheur, Rock Schwinard, de l'Université de Montréal, là, qui a beaucoup travaillé sur la motivation scolaire. Puis il m'a dit « la pire chose que tu peux faire pour un petit gars, par exemple, qui n'est pas bon en français puis qui a de la difficulté, c'est d'y ajouter du français. Il n'apprendra pas plus.
Ben non.
Il va juste s'écœurer davantage.
Ouais, ouais.
Donc si on pouvait vraiment concentrer les apprentissages, chacun y va un peu à son rythme, à des moments précis, mais qu'une bonne partie de la journée est pour développer ses propres passions, ben là, la motivation scolaire, l'estime de soi augmenterait beaucoup. Donc, si on pouvait vraiment tout mettre sur pause, revoir la grille horaire, puis s'ouvrir l'esprit complètement là, en se disant que oui, les mathématiques et le français, c'est la base, mais il existe d'autres passions, il existe d'autres habiletés, d'autres compétences à travailler, ce serait merveilleux.
Comment qu'une pause peut être demandé?
Je sais pas, je pense pas que c'est faisable, malheureusement. La vie continue. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup...
Ça sent une pause, mais
je pense qu'on a, y a eu... En fait, le Québec, c'est arrivé à un moment donné dans l'histoire du Québec où on a revu complètement le système scolaire. C'est pendant la Révolution tranquille, dans les années 60. Il y a eu un rapport par an. C'est là que la fréquentation scolaire jusqu'à 16 ans a été inaugurée, on va dire. Moi, je pense fermement qu'on devrait la pousser jusqu'à 18 ans.
L'obligation
tant que tu n'as pas obtenu un diplôme d'études secondaires ou professionnelles, il faut que tu continues l'école jusqu'à 18 ans. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick le font.
Okay.
Puis leur taux de décrochage a beaucoup diminué.
Attends, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, c'est jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans.
Obligation scolaire.
Ben, si tu obtiens, comme
si
au Québec, tu obtiens ton diplôme. Si tu n'as pas ton diplôme.
Ton diplôme à 17, tu n'es pas obligé de continuer à 18.
Exact. Donc,
continue jusqu'à 18.
Tant que tu n'as pas ton premier diplôme. À 18, si tu ne l'as pas, bon, idéalement, tu continuerais quand même. À un moment donné, tu as 18 ans.
Mais eux, le matin, au lieu de bouger, ils chantent l'hymne national.
Font-ils ça encore, tu
vois? Oui, en Ontario.
Ah, ouais. Non, mon Dieu, OK, non. Non, j'irai pas là.
Non, t'irais pas là.
J'irai pas là.
Non.
Non, non. Mais là, je me suis perdu dans la question de Eugène. Non, c'est pas toi, c'est moi avec mon 18 ans qui me suis.
Ben, tu étais en train de parler. Qu'est-ce que tu.
Idéal.
L'idéal.
L'école idéale.
Tu disais de garder les élèves jusqu'à 18 ans.
Oui, exactement. Et bien, ça, si j'avais. Je parlais du rapport parent des années 60.
Parent, bon, d'abord, parent des 60. Je t'ai posé la question.
Ben, c'est
comment on met une pause?
Ben, moi, je pense qu'on a besoin d'un rapport parent, on va dire 2.0. À ce moment-là, il y avait vraiment fait un comité qui avait regardé les meilleures pratiques partout au monde, qui avait regardé avec honnêteté notre propre système. On avait, à cette époque-là, l'éducation était loin d'être une priorité. Là, on sortait de la grande noirceur de Maurice Duplessis, puis faut pas trop éduquer le peuple. Puis on réussit en quelques années à moderniser le Québec au complet en se basant beaucoup sur le système scolaire. Donc, si on pouvait peut-être s'en mettre le système ou l'année scolaire sur pause, se dire on en fait une commission parent 2.0, on consulte les experts de partout dans le monde, on regarde ce qui se fait le mieux, on regarde les systèmes scolaires où les gens performent, où les gens se rendent jusqu'à la diplomation, où le taux de bonheur est quand même élevé. Là, on veut pas copier les endroits où tout le monde a 90 mais qui sont malheureux.
Un équilibre.
Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Le système scolaire a évolué. Mais quelqu'un qui arriverait de 1905 et qui verrait une classe aujourd'hui, il ne serait pas en état de choc. Tu sais, il se demanderait c'est quoi ces écrans-là.
Mais on est
encore en rang d'oignon avec
c'est
un poste qui enseigne en avant.
Ouais,
donc, si on pouvait faire ça, je pense, puis dans notre histoire, on l'a déjà fait, c'est quelque chose qui serait faisable. Mais il faut prioriser l'éducation pour ça. Il faut que nos gouvernements priorisent l'éducation. Il faut que la population, quand ils reçoivent le petit sondage, c'est quoi ta priorité? Au lieu de toujours dire la santé, on dit l'éducation aussi comme priorité nationale.
Se poser la question en éducation, pourquoi on fait les choses, à un moment donné, ça fait du bien parce que je reviens avec l'intelligence artificielle, ça existe, là, à un moment donné. Les connaissances versus compétences, comme que tu me parlais tantôt, l'aspect connaissance, l'intelligence artificielle est là pour rester, puis ça va être amplifié. Moi, je me répète, mais il me semble, sans mettre une pause, mais de revoir un peu le calendrier ou les créneaux, l'horaire, en fait, d'une classe. Est-ce qu'il y a des formations supplémentaires que tu offrirais aux jeunes, vraiment jeunes?
Bien, au-delà des formations, il y a une belle toute petite école primaire dans le Mylène qui s'appelle Éducaré. Je ne sais pas si vous avez
Éducaré.
Éducaré. Édu avec un petit 2.
Okay.
Puis eux, les jeunes sont multiniveaux. Donc, je pense que c'est secondaire 1 à 5.
Ah oui?
Puis, ils apprennent par projet. Donc, ils passent à travers toutes les connaissances obligatoires du programme. Quand un élève a de la difficulté, ils le prennent à part. Ils enseignent à des petits groupes qui peuvent être multiniveaux pour enseigner des
éléments de 1 à 5.
Tout le monde est mélangé. Puis là, tout à coup, il y a un projet que tout le monde fait ensemble.
Ils collaborent.
Déjà allé voir, à un moment donné, ils créaient un genre de casino. Là,
ah ouais.
Puis là, ils apprenaient les notions mathématiques, des statistiques, puis des chances de succès, etc. Ils allaient faire une présentation orale à propos de probabilité, exactement. Il allait faire une présentation orale à propos de leur kiosque.
Ah ouais.
Il y avait de l'art à travers tout ça.
Ah ouais.
Puis tout le monde participait. Puis là, à un moment donné, il y a le kiosque. Le vrai casino est ouvert. Les profs font le tour. Puis ils ont deux enseignants. Un enseignant qui est plus mathématiques-sciences, puis l'autre qui est plus français-univers social. Il y a un prof d'anglais qui vient de temps en temps. Ils connaissent tous leurs jeunes. C'est un petit peu révolutionné, si on veut, à petite échelle, le monde de l'éducation. Nous, on les a consultés, puis on va partir de notre propre petit éducaré dans le collège pour un groupe. On va faire du secondaire 1-2 l'année prochaine. Puis je pense qu'au-delà des compétences qu'on enseigne, c'est de leur permettre d'utiliser ces compétences-là différemment que juste apprendre du par cœur.
Ouais.
Ça, je pense, en est un bon exemple. Ça en est un bon exemple.
Il faut, puis l'aspect de collaboration aussi.
Collaboration, ça communication.
Ça se fait automatique.
Ouais.
Non, c'est intéressant. Dis-moi, nous, on se parle aujourd'hui parce que j'ai une firme de consultation qui se nomme Dupuis Ressources Humaines. On est partenaire. C'est quoi le rôle des partenaires pour la Fédération des établissements d'enseignement privé?
C'est extrêmement important. En fait, la Fédération regroupe près de 200 écoles. Il y en a des très grandes comme la mienne où on peut se permettre d'avoir des grandes équipes de direction. Il y a beaucoup de petites écoles où il n'y a pas de direction des ressources humaines. Des fois, il n'y a pas de direction des finances. Des fois, des fois, c'est une personne avec un adjoint qui gère l'entièreté de l'école.
Tout autre temps, je connecte.
Oui, puis une école privée, des fois, il y a quand même une bonne différence d'être un dirigeant d'une école privée versus école publique. On doit gérer les finances, on gère directement nos ressources humaines, nos négociations de conventions collectives,
une bâtisse,
la compétition, le marketing, etc. Donc, d'avoir des partenaires qui sont disponibles, avec qui on peut faire affaire, à qui on peut se référer rapidement, c'est très, très important. C'est très important. Puis, je parle même, j'ai une très grande école où j'ai une équipe, mais il arrive des fois, les gens n'ont pas toutes les expertises, n'ont pas toujours le temps pour tout. Il y a des moments où on est en négociation de conventions collectives, puis on doit négocier nous-mêmes là, avec nos syndicats. Ce n'est pas le national qui négocie pour nous. Donc, de pouvoir faire affaire avec des firmes ressources humaines, des cabinets d'avocats qui ont cette expertise-là en éducation, c'est une très, très grande richesse.
Good. Dis-moi, on a vu sur ton... On voulait trouver une façon de t'amener vers là, mais on va t'amener direct.
C'est bon.
Tu fais du kayak.
Okay? Oui.
Puis parle-moi de ça un peu, parce que, tu sais, on se disait, bon, on va trouver une façon d'amener le sujet en disant, tu sais, suivre le courant, puis là...
Oui.
Mais je trouve ça super intéressant, puis je voyais que t'étais pas mal impliqué là-dedans, le kayak, puis explique-moi pourquoi le kayak. Parce que j'en ai fait du kayak, il y a un côté quand même assez dangereux dans ça.
Oui.
J'ai eu une débarque avec ma blonde cet été, puis j'ai été surpris à quel point que...
Mais Dave, c'est du kayak de rivière, là.
Ah ouais, ben ça c'est plus c'est plus d'action. Moi, c'est du kayak de mer.
C'est du kayak de mer.
En fait, moi j'ai toujours un peu comme philosophie personnelle que c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est puis quand on m'offre des projets ou des
parce
expériences.
Parce que tu postais là-dessus sur LinkedIn.
Oui, c'est
mis
ça.
Le professionnel avec toi.
J'ai accepté un défi en fait, c'est ça. Là, je suis pas quelqu'un qui en a fait beaucoup de kayak. J'en ai fait il y a peut-être une dizaine d'années. J'ai de la famille dans le coin de Magog. J'en ai fait sur le lac Memphrey-Magog.
Très beau lac.
J'aime beaucoup ça. En effet, dans Charlevoix, là, aller voir les baleines puis tout ça. Mais j'étais pas quelqu'un qui en faisait tant que ça. Et puis, un très bel organisme qui s'appelle Jeunes musiciens du monde, qui offre des cours de musique et des instruments dans des milieux défavorisés, surtout au Québec, qui organise un grand défi kayak Montréal-Québec à chaque année.
Quand même.
Et puis,
Montréal-Québec en kayak.
Exact.
Le courant, il va dans quel sens?
Dans le bon sens.
Ah, OK, Pew.
Dans le bon sens, mais quand même. Puis,
c'est combien de temps?
C'est 4 jours. C'est 4 jours. T'es entre 8 et 11 heures là, sur le fleuve. Puis, quelqu'un m'a envoyé ce défi-là, puis je me suis dit, hey, ça serait le fun. ça va me permettre renouer avec le kayak. J'avais pas fait tant que ça depuis quand même un bout de temps.
Ouais.
Et puis, je me suis inscrit. Puis là, fallait lever des fonds pour l'organisme, un certain montant.
Okay.
Pour l'événement au complet,
c'est une bonne cause.
C'est une très bonne cause, puis ça a été tout un défi et une excellente expérience.
Comment ça se passe, manger puis dormir?
Ben écoute, tu pars le matin, il faut que tu sois à 7 heures à côté de ton kayak.
Okay.
Et puis là, il y a un arrêt dîner. Donc, il y a une pause, puis là, il faisait 38, il y a quelques semaines, il faisait 38 degrés Celsius sur le fleuve, il n'y avait pas de vent. Fait que ça a été le plus gros enjeu, je dirais.
Je comprends.
On faisait une pause de 10 minutes à toutes les heures.
Okay.
Puis on arrêtait dîner à des endroits où l'organisation était impeccable. Là, le chapiteau se promenait d'un endroit à l'autre.
Okay.
on nous accueillait pour le repas. Puis au coucher, il y en a qui campaient, où tu pouvais aussi, il y avait moyen de réserver des motels là, dans les coins où on était.
Okay.
Fait qu'on arrivait vers 18h, 19h, on soupait, tout le monde se couchait parce qu'on était épuisé.
Ben ouais,
puis le lendemain, on repartait. Donc sur 4 jours, on s'est rendu jusqu'à Québec.
Ça t'a pris combien de temps à revenir, perdre ton... Tu sais, parce que quand on est longtemps sur le, oui. sur le fleuve, on, quand on est revenu...
Oui, ben en fait, ça a pris peut-être un 24 heures, mais durant les couchers, là, à la fin de la journée... Quand tu es debout, tu ne le sens pas tant que ça, mais dès que tu t'assois pour manger, tu as l'impression que la terre continue
bouge
à bouger.
Ouais.
Fait que ça a été un défi. Dans les premiers jours, parce que j'avais perdu un petit peu la touche au kayak, le bas de dos, la position n'était pas
les
facile.
Épaules.
Puis à un moment donné, les épaules, les trapèzes.
Hein? Okay.
Mais une belle expérience collaborative. Les gens s'entraident, les gens se parlent. L'organisation est incroyable. Il y a des gens en Zodiac là, qui t'offrent, ils s'assurent que tout le monde est correct, réparent un peu les kayaks, donnent du Gatorade.
S'il y en a qui se blessent.
S'il y en a qui se blessent, exactement. Donc la sécurité était parfaite. Puis une belle façon de découvrir notre beau fleuve qu'on voit jamais.
Ouais, parce que tu as vu le... Des fois, on voit le fleuve, mais de la route. Là, tu as vu...
Ben oui, puis on se rend jusqu'à Charlevoix pour le voir, pour le visiter, alors que entre Montréal et Québec, c'est excessivement beau, puis on le voit jamais. Quand on prend la 20 ou la 40,
non, c'est vrai.
On voit juste l'autoroute.
Ouais.
Puis il y a des très, très beaux coins, là, le coin de Batiscan, entre autres, là, où est-ce qu'il y a une superbe plage qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment une belle découverte, un beau défi sportif, puis une belle cause. Là.
Génial.
Ouais, j'encourage tout le monde pour aller voir là, le grand défi kayak dégagné qui est le commanditaire principal.
Tu es impliqué aussi, tu es membre du cercle de donateurs du réseau national, si je ne me trompe pas.
Oui,
aussi,
ben j'essaie de m'impliquer. Ça aussi, j'ai été très chanceux dans la vie. Là.
Ouais.
Je viens d'une famille qui tout allait très bien chez nous.
Ouais.
Là. Mon père était un ingénieur, un gestionnaire, donc j'avais une belle qualité de vie. Mais j'ai toujours été inculqué avec les valeurs qu'il faut redonner quand on est chanceux. Donc, je m'implique beaucoup. J'ai aidé à fonder un centre de pédiatrie sociale à Longueuil, pédiatrie sociale du docteur Julien.
Okay.
J'essaie de redonner à plusieurs causes. Collège aussi, on s'implique beaucoup. Depuis que je suis là, on a mis l'emphase sur donner de plus en plus de bourses à des élèves qui n'auraient autrement pas les moyens de venir chez nous. Okay. Des jeunes identifiés par les centres jeunesse Montérégie, par la fondation du docteur Julien, qui viennent de milieux plus défavorisés, qui peuvent venir dans notre collège complètement gratuitement. Ils ne payent pas les frais de scolarité, ils ne payent pas le repas. On leur offre le repas, ils ne payent pas l'uniforme, etc.
C'est-tu, entre autres, pour ça, le tournoi de golf?
Oui, le tournoi de golf. En fait, le tournoi de golf, c'est pour on fait différents événements pour différentes choses.
Ouais,
ça, c'est pour nos jeunes sportifs. Donc, on remet des bourses aux jeunes sportifs qui n'auraient pas autrement les moyens.
Okay.
Mais le tournoi de golf amasse des fonds vraiment pour notre service des sports. Là, exactement.
Ouais. OK. Faites ça à quel terrain?
Napierville. On fait ça à Napierville à chaque année. Vous êtes invité l'année prochaine.
On s'achète un Forsen l'année prochaine.
Avec tes frisbees.
Avec mes frisbees, je pourrais amener... Disque golf.
Ben oui, vous allez pouvoir rencontrer Steve Bégin, Guillaume Latendresse, Paul Byron vient chaque année aussi.
Paul Byron,
il y a deux enfants qui rentrent au collège. Là, puis,
ah ouais?
Ils sont un très gentil monsieur. Il vient d'Ottawa, il parle bien français.
Donc,
on voit que l'anglais, c'est sa langue première, là, mais il sort avec une Québécoise francophone. Puis ses deux enfants rentrent au collège là, cette année.
On ira avec plaisir.
C'est bon.
Ouais, David, on a quand même évité le sujet, là, mais les coupures budgétaires.
On finit avec ça.
C'est plate. Là,
c'est ça, notre dernier sujet.
Parce qu'on en parle. le ping-pong, on enlève, on remet de l'argent. Tu sais, rapidement, là, comment tu vois ça?
Ben, nous, c'est certain qu'à la Fédération, ce qu'on dit, on comprend qu'on doit faire notre part. Si à un moment donné, il y a des coupures à faire, on ne peut pas couper le réseau public puis ne pas couper le réseau privé. Donc, on est d'accord de faire notre part quand il y a une part à faire. Par contre, comme je l'ai dit, on pense que l'éducation devrait être la grande priorité au Québec.
Ouais.
Puis le premier ministre a souvent dit que c'était sa grande priorité aussi. Puis on pense définitivement que quand on a besoin de se serrer la ceinture, il faut le faire le moins possible en éducation. Les services aux élèves ne doivent pas être touchés. Le réseau public a besoin d'infrastructures. Ils ont mis sur la glace des projets d'agrandissement, des projets de construction, des jeunes dans des roulottes. À un moment donné, il faut que ça arrête, pense. Fait qu'on a fait front commun là, avec le réseau public pour dire, s'il vous plaît, ne touchez pas à l'éducation ou du moins, faites-le le moins possible. Donc, on était contents quand même du réinvestissement. Comme tout le monde, le moment de l'année nous a beaucoup dérangés. On nous demande de faire nos états financiers et nos budgets avant le 30 juin. Puis on nous annonce la semaine d'avant qu'on a une coupure massive. Là,
c'était
presque 500 $ par élève.
C'est
chez nous, au collège, c'était 1,4 million de $ que je devais trouver en une semaine.
Ouais.
Alors qu'on a déjà embauché notre personnel. Les augmentations salariales ont déjà été données. Tout est bouclé.
Ouais.
Donc, c'est certain que si ça a répété, s'il vous plaît, ne pas répéter.
Ouais.
Donc, éviter le secteur d'éducation le plus possible. Mais ça prend une prévisibilité. Il faut nous dire d'avance. On peut travailler main dans la main avec le ministère puis aider à identifier parfois peut-être des endroits ou des réflexions. Mais c'est certain que ça fait mal. Et d'ailleurs, on garde quand même un élément de coupure. Il y a un réinvestissement, mais nous, c'est quand je regarde, ma subvention est quand même coupée de moitié. Ouais. Du 475, j'ai encore un 200-300 de coupé.
Même s'ils en ont remis après. Là,
oui, même s'ils en ont remis, c'est quand même un effort qu'on doit faire. Ouais. Puis quand on nous dit couper à cette ampleur-là, mais ne touchez pas au service aux élèves, ben on va couper où?
Là, ouais, ça ressemble à quoi? Je le sais, c'est du cas par cas, mais en général, la santé financière des établissements d'enseignement privé, il y en a qui ont de la difficulté.
Oui, il y en a quand même un certain nombre. Tout à fait. En fait, moi, il y a des écoles...
Il y a de l'argent qui dort dans
non, on est des organismes à but non lucratif. Les gens ne le savent souvent pas. Donc, oui, on vise à faire des surplus parce qu'on doit être prêt pour les...
Il y a des écoles qui sont menacées de fermer.
Il y a des écoles qui sont menacées de fermer. Puis quand on a reçu la coupure de 475 par élève, on s'est réunis pour partager qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis il y a des écoles qui étaient obligées de refacturer 475 aux parents, faute de quoi ils n'arrivaient pas à payer les salaires. Donc on n'a pas, tu sais, il y a une vision que les écoles privées sont très très riches.
Ouais.
En fait, en termes d'argent qu'on reçoit par élève, c'est à peu près 50% de la subvention. On dit 60% des services éducatifs parce que ces services éducatifs, ça inclut pas les bâtiments. Ouais. Les bâtiments coûtent cher.
Ah, ouais.
Il y en a qui ont des écoles patrimoniales, ça coûte très très cher à rénover. Donc, je dirais que la santé financière est quand même bonne, mais qu'il y a quand même 10-15 écoles qui vivent des enjeux que si jamais il y avait des coupures comme celles qui avaient été annoncées, qui se répétaient, il y aurait des dangers de fermeture. Puis ça, c'est paradoxal parce que ces élèves-là, si ces écoles-là ferment, vont devoir aller au public ou au lieu de coûter 50%, ils coûtent 100% et qu'il n'y a pas de place pour eux de toute façon dans les écoles publiques. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. Puis c'est une fausse bonne solution là, quand les gens disent « Ah, on a besoin d'argent pour couper les écoles privées. » Si on coupe les écoles privées, les gens, on va devoir augmenter les frais de scolarité. Il y a beaucoup de personnes qui n'auront plus les moyens de venir dans nos écoles. Il y a des écoles qui vont fermer. Puis tous ces élèves-là vont se diriger vers le public où il n'y a pas de place.
Est-ce que le public puis le privé se parlent actuellement ou se sont parlé quand il y a eu des coupures? Oui. C'était le moment de.
Oui, on s'est parlé définitivement. La permanence de la fédération.
Ah
oui. Puis même à un moment donné, c'était pas clair les vrais chiffres. C'est 500 millions, c'était 1 milliard. C'est quand même une différence de 500 millions de dollars.
Ça pas de bon, on réalise pas en tant que citoyen.
Pas de bon sens. Puis il y avait un débat entre est-ce que c'est 500 ou 1 milliard. Puis là, à un moment donné.
Mais quand on regarde le site de la SAQ, on se dit ils ont...
C'est le même montant. c'est certain que le timing, en tout cas...
C'est drôle et pas drôle en même temps.
Non, c'est absurde. Ça n'a pas de bon sens.
Parce que c'est nous, c'est notre... C'est,
oui, oui.
C'est...
Puis nous, on nous dit...
Ils font se un peu de ça. Hein? Le gouvernement, c'est toi.
C'est nous, c'est notre argent, c'est nos priorités.
Moi, je ne suis pas invitable.
Mais bon, je comprends. On fait attention de ne pas toujours faire d'amalgame. On comprend que l'économie... Bon, on vit une situation économique difficile. Raccourci, mais oui, mais en même temps, c'est vrai que c'était à peu près le même montant.
Drôle de timing.
Puis, puis on trouve ça particulier de se faire dire, bon, on peut pas vous dire le chiffre exact au public, mais vous, c'était le pourcentage, puis ça représente tant, mais okay, on fait une règle de 3, puis ça fait 1 milliard quand même. Vous nous dites c'est 500 millions, en tout cas. C'est un moment donné de la transparence, le moment de l'année, de communiquer, puis de travailler main dans la main tous ensemble. Je pense que ce serait mieux. Donc, ça a été un épisode difficile qu'on espère ne pas revivre. Puis là, on nous a dit que les deux coupures qu'on a vécues dans les deux dernières années étaient récurrentes, mais que le réinvestissement ne l'était peut-être pas. On aimerait ça apprendre assez rapidement qu'il est récurrent, le réinvestissement. Puis de ne pas attendre au mois de juin pour nous annoncer qu'il faut revivre une coupure comme celle-là.
Moi, j'ai une question, David.
Oui.
Est-ce que le métier d'enseignant est assez valorisé au Québec?
Pas assez. Puis moi, j'ai de la difficulté. Je dois dire, puis là, il faut que je fasse attention,
oui,
que les syndicats jouent un rôle. Bon, j'allais dire, les syndicats jouent un rôle très important. Okay? Je reconnais tout à fait. J'ai un syndicat avec qui on travaille très bien au Collège Charlemagne, des représentants syndicaux qui sont là pour les bonnes raisons. Mais quand vient le temps des négociations nationales, puis qu'on voit des publicités passer, puis qu'on dirait que c'est la guerre nucléaire dans les écoles, puis que c'est la pire profession que tu peux pas faire au monde. J'ai de la difficulté avec cette image-là qui, d'après moi, n'est pas la bonne. Moi, les enseignants que je connais sont passionnés. Ils adorent leur travail. Rares sont les emplois où tu sens que tu peux vraiment faire une différence positive, changer le monde en changeant la vie des jeunes.
De la base,
Oui, il y a des situations difficiles. Puis oui, c'est pas facile tout le temps, mais les gens aiment enseigner. C'est une belle profession. Puis on doit le dire haut et fort. T'sais, venez, on a besoin de plus d'enseignants. On a besoin de plus d'hommes dans la profession aussi.
Ouais.
Puis moi, je pense qu'il faut changer notre discours à propos de la profession enseignante. Puis l'autre élément, quand on regarde aussi les conventions collectives, beaucoup basées sur l'ancienneté, quand on dit que 20% des profs quittent dans les 5-7 premières années, oui, ça peut être à cause de la composition de la classe et différents éléments, mais quand tu as des bouts de tâches avec les groupes les plus difficiles en début de carrière, c'est très difficile alors que tu n'as pas d'expérience. Mm-hmm. Fait qu'un jour, il va falloir s'asseoir puis dire, est-ce que l'ancienneté doit toujours tenir lieu de première priorité des choix de tâches. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner aux jeunes enseignants des conditions gagnantes pour bien se développer dans la profession? Ça va devenir important un jour. Okay. Donc, effectivement, je pense qu'elle est sous-valorisée puis qu'il faudrait dire au effort, c'est une excellente, une belle profession pour changer le monde.
Parce qu'on parle actuellement de pénurie.
Oui.
OK. La solution qui a été mise de l'avant, c'est de baisser, sauf si je me trompe, de baisser les critères d'embauche. Là, c'est...
Ah ben ça, c'est en fait, c'est que là, il y a beaucoup d'enseignants non qualifiés qui sont dans le système. Donc,
mais on s'en va où avec ça?
Ben, ces gens-là, en plus, ne pourront jamais obtenir de permanence. Donc, ils vont flotter dans le système. Il faut attirer des jeunes dans la profession enseignante, que quand même, je dois dire, le gouvernement a amélioré les conditions de travail. Les salaires ont quand même augmenté de façon considérable dans les 5-7 dernières années au niveau des enseignantes et enseignants, ce qui est une bonne chose. Je pense qu'il le mérite. Mais il faut revoir, il faut valoriser la profession, il faut faire des campagnes de publicité, le dire. Des fois, les gens sont surpris d'apprendre bon, la qualité de vie des enseignants au Québec. Tu as quand même des belles conditions de travail. Je pense qu'ils mériteraient quand même de gagner peut-être un peu plus d'argent, mais tu as des belles conditions de travail au niveau de la retraite, au niveau des assurances et tout.
L'été.
L'été. Ouais. Puis en plus, ben, tu fais vraiment, tu es avec des jeunes tout le temps. T'sais, c'est une passion. Moi, j'ai toujours dit, faut que si tu es prof, il faut que tu aies une passion pour les jeunes. Au-delà de ta passion pour ta matière, c'est pour les jeunes. Il faut que tu doives aimer être avec des enfants ou des adolescents. Puis ils te stimulent, ils te gardent jeune toute ta vie, puis tu fais une différence positive dans leur vie. Donc, je pense qu'il faut... la solution est là, c'est de les attirer dans la profession.
Ouais.
Revoir aussi la formation initiale, valoriser le bac en enseignement, rémunérer les stages. Les jeunes étudiants le disent, puis ça commence un peu à se développer. Mais il faut vraiment mettre une priorité là-dessus.
Est-ce que, selon toi, le public a plus de difficultés à recruter des enseignants que le privé?
Le public doit, là encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis, mais le public et les syndicats doivent s'asseoir puis revoir leur façon de faire les affectations.
Ouais.
Nous, quand on a vu venir la baisse démographique ou la pénurie de main-d'œuvre, on a revu nos pratiques. Nos profs sont affectés au mois d'avril, mai. On sait qu'ils en ont besoin. On fait des foires d'emploi, on fait des 5 à 7 emplois pour attirer les profs chez nous. Donc, on finit l'année scolaire, on a tous nos enseignants habituellement, même malgré la pénurie de main-d'œuvre, alors que souvent les centres de services scolaires commencent leur processus à la fin juin. Donc, je pense que le problème est beaucoup là. Quand on parle d'attrait, le salaire est le même entre les écoles privées et publiques. On offre des beaux milieux de vie, c'est certain, dans nos écoles, mais je pense que c'est pour cette raison-là beaucoup qui ont un peu plus de difficultés à recruter.
OK.
Tu as déjà été conseiller municipal?
Oui.
Est-ce que tu t'es déjà fait approcher pour un autre palier?
Ouais.
Ben, pas
parce qu'à t'écouter parler, tu serais un très bon ministre de l'Éducation.
Ben, j'aime la politique. J'ai toujours aimé la politique. C'est une passion. J'ai aimé être conseiller municipal. J'ai fait deux mandats à un moment donné aussi. Je voulais passer à autre chose, mais un jour, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Ouais, il y en a qui t'ont déjà tenté le pouls.
Ben, en fait, quand vient le temps des campagnes électorales, j'ai déjà été consulté à propos au niveau de l'éducation. Donc, puis ça, quand on m'appelle, je réponds aux questions. Puis, j'ai quand même certaines...
T'as pas la porte.
Non, c'est ça. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, peut-être, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Mais on te verrait, là.
Ouais, ben, c'est quand même si je fais une couple d'addition sans faire de mathématiques, j'ai pas de calculatrice à côté de moi, mais une couple d'addition, tu dis dans l'école idéale, la question de Dave, tu dis chaque matin une heure de bouger. Bon, ben là, on coupe en éducation, on coupe en santé.
Mm-hmm.
Fait que là, toi, tu viens de régler deux problèmes. Les jeunes apprennent plus, apprennent mieux parce qu'ils ont extériorisé au début de la journée, puis ils sont plus en santé parce que tous les jours ils bougent. Mmh. Fait que tu désengorges
c'est
le système
de santé. C'est des solutions tellement simples.
J'ai des statistiques dans mon livre.
C'est trop simple pour les fonctionnaires.
En fait, juste les décrocheurs, il y a des statistiques là-dessus, là, ont beaucoup plus de chances d'avoir des enjeux de santé, de consommer, de fumer, etc. Donc, d'investir en éducation, on sauve de l'argent en santé aussi. Hein. Puis quand on parle de prioriser l'économie, bien sûr, prioriser une économie, il faut que tu diplômes tes jeunes. Donc, je pense que c'est là qu'on doit investir. Pour moi, c'est assez clair, mais il faut vraiment le prioriser.
Est-ce qu'il y a des lobbies qui nuisent?
Je sais pas.
Je suis en train de réfléchir.
Je sais pas arrêter le podcast.
Non, mais je me dis, c'est tellement simple, mais...
Je sais pas. Je sais pas si des lobbies. Mais c'est certain que je pense pas qu'il y a des lobbies qui nuisent, mais c'est juste qu'il faut avoir comme société, comme homme, femme d'affaires, comme gouvernement, comme le milieu de la santé. On doit tous se dire que si on investit, quand on fait de la prévention, c'est toujours investir en prévention. Ça nous économise de l'argent en intervention, en bout de piste. On a fait des pas de géant au niveau de la cigarette. Là, moi, j'étais dans les années 90, j'étais dans les écoles secondaires, tout le monde fumait partout, tout ça. Puis c'était quasiment bizarre si tu ne fumais pas.
Les médecins accouchaient des enfants.
Ouais. Puis là, aujourd'hui, là, ça commence à vapoter, là, mais bon, on ne voit plus la cigarette comme on l'a déjà vu. Donc, quand on décide qu'on se donne une priorité puis qu'on investit en prévention, en message public comme société, on est capable. Ouais. Donc, il faut se le dire. Puis on a souvent tendance aussi à blâmer le gouvernement. Puis bon, oui, moi, je suis d'accord qu'il y a des éléments que le gouvernement doit prioriser. Mais quand ils font leur sondage, quelle est votre priorité? C'est santé, économie, économie, santé, puis tu as l'éducation loin en arrière. Il faut se regarder dans le miroir puis se dire, comme société, il faut le prioriser.
Oui, non, je suis d'accord. Écoute, David, c'était un plaisir de t'accueillir.
Plaisir partagé.
Vraiment, ça a été super... instructif, agréable.
Ben merci à vous, merci d'avoir pour le livre. Ça me fait plaisir, merci de vous intéresser à la question, c'est très très apprécié.
Ouais, vraiment. Puis je suggère à tout le monde, réflexion d'un directeur d'école pour injecter une dose de persévérance scolaire au Québec.
On les met les deux. Je ne peux pas plus le présenter que ça.
Merci beaucoup.
Hey, merci David.
Ça me fait plaisir, merci à vous. C'est...